Radio, troisième partie, chapitre 5. Hippolyte, qui, vers la fin de la dissertation de Lébédef, s'était endormi sur le divan, venait maintenant de se réveiller soudain, comme si quelqu'un lui avait donné un coup dans la poitrine. Il frissonna, se mit sur son séant, regarda autour de lui et pâlit. Ses yeux se promenèrent sur l'assistance avec une certaine expression d'inquiétude, mais ce fut presque de la terreur qui se manifesta sur son visage lorsque la mémoire et la réflexion lui revinrent. « Quoi ? Ils s'en vont ? C'est fini ? Tout est fini ? Le soleil est levé ? » demanda-t-il anxieusement. Et il saisit le prince par le bras. « Quelle heure est-il ? Pour l'amour de Dieu, quelle heure est-il ? J'ai trop dormi. Ai-je dormi longtemps ? » ajouta-t-il avec une sorte de désespoir, comme si le sommeil lui avait fait manquer une affaire d'où dépendait toute sa destinée. « Vous avez dormi 7 ou 8 minutes, » répondit Eugène Pavlovitch. Hippolyte le regarda avidement et pendant quelques secondes recueillit ses idées. « Ah ! Seulement, alors je... » Et il respira longuement comme un homme soulagé d'un fardeau très pénible. Il avait enfin compris que rien n'était fini, qu'il ne faisait pas encore jour, que les visiteurs ne s'étaient pas levés pour s'en aller, mais à cause du repas, et que si quelque chose avait pris fin, c'était seulement le bavardage de Lébédef. Il sourit, et les taches rouges, signe caractéristique de la phtisie, commencèrent à se montrer sur ses pommettes. « Et vous avez même compté les minutes pendant lesquelles j'ai dormi, Eugène Pavlitch ? » dit-il d'un ton moqueur. « Depuis le commencement de la soirée, vous ne m'avez pas quitté des yeux, je l'ai remarqué. « Ah ! Rogojine, je l'ai vu tout à l'heure en songe !» ajouta-t-il à l'oreille du prince, tandis que, fronçant le sourcil, il montrait d'un signe de tête Parfen Semenitch, assis devant la table. Puis, sans transition, il passa à une autre idée. « Ah oui, où est donc l'orateur ? Où est Lébédef ? Ainsi Lébédef a fini. De quoi a-t-il parlé ? Est-il vrai, prince, que vous ayez dit une fois que la beauté sauverait le monde ?»« Messieurs » cria-t-il en s'adressant à toute la société, « le prince assure que la beauté sauvera le monde. » Et moi, je soutiens que s'il a des idées si folâtres, c'est qu'il est amoureux. Messieurs, le prince est amoureux. Tantôt, dès qu'il est entré, j'en ai été convaincu. Ne rougissez pas, prince, vous allez me faire pitié. Quelle beauté sauvera le monde ? Kolia m'a répété cette parole. Vous êtes un chrétien fervent ? Kolia prétend que vous prenez vous-même le nom de chrétien. Le prince le considéra attentivement et garda le silence. « Vous ne me répondez pas. Vous croyez peut-être que je vous aime beaucoup ?» ajouta brusquement Hippolyte. « Non, je ne le crois pas. Je sais que vous ne m'aimez pas. »« Comment ? Même après notre entrevue d'hier, ai-je été franc avec vous hier ?»« Hier déjà, je savais que vous ne m'aimiez pas. » « Parce que je suis jaloux de vous, parce que je vous envie, n'est-ce pas ? Vous avez toujours pensé cela, et vous le pensez maintenant encore. Mais pourquoi vous parlais-je de cela ? Je veux boire encore du champagne. Versez-moi, Keller. » « Vous ne pouvez plus boire, Hippolyte, je ne vous laisserai pas. » Et le prince éloigna la coupe que le malade avait devant lui. « Au fait, vous avez raison. » reconnut aussitôt Hippolyte, qui semblait devenu songeur. « On ne manquerait pas de dire « Mais que m'importe ce qu'on dira. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai ? Qu'ils disent ensuite ce qu'ils voudront, n'est-ce pas, prince ? Et nous tous, pourquoi nous inquiéter de ce qui arrivera après ? Du reste, je suis à moitié endormi. Quel rêve affreux j'ai fait ! Je viens seulement de me le rappeler. Je ne vous souhaite pas de pareils rêves, prince. » Quoique peut-être, en effet, je ne vous aime pas. Du reste, si on n'aime pas un homme, ce n'est pas une raison pour lui souhaiter du mal, n'est-ce pas ? Pourquoi fais-je toujours des questions ? Je ne cesse de questionner. Donnez-moi votre main. je la serrerai chaleureusement. Oui, comme cela. Vous m'avez tout de même tendu la main. Vous savez donc que je vous la serrerai de bon cœur. Soit, je ne boirai plus. Quelle heure est-il? Du reste, il est inutile de le demander. Je sais l'heure qu'il est. L'heure est venue. C'est maintenant le moment. Eh bien, on met le couvert là, dans le coin? Alors, cette table est libre. Très bien. Messieurs, je... Pourtant, tous ces messieurs n'écoutent pas. J'ai l'intention de lire un article, prince. Sans doute, le repas est plus intéressant, mais... Et soudain, à la surprise générale, Hippolyte tira d'une poche de côté de sa redingote une grande enveloppe scellée d'un large cachet rouge et la déposa sur la table en face de lui. Cette circonstance inattendue produisit son effet. La société s'attendait bien à quelque chose, mais non à cela. Eugène Pavlovitch s'agita sur sa chaise. Gania s'élança vers la table, Rogojine en fit autant. Mais sa physionomie exprimait une sorte de colère hargneuse, comme s'il avait compris le fin mot de l'incident. Les Bédef, qui se trouvaient dans le voisinage d'Hippolyte, s'approcha avec ses petits yeux curieux et considéra l'enveloppe en cherchant à deviner de quoi il s'agissait. « Qu'est-ce que vous avez ?» demanda le prince avec inquiétude. « Dès que le soleil commencera à se montrer, je me coucherai, prince, je l'ai dit. Parole d'honneur, vous verrez !» cria Hippolyte. « Mais se peut-il que vous ne me croyez pas en état de décacheter ce paquet ?» ajouta-t-il, promenant sur la compagnie un regard de défi qui semblait s'adresser indistinctement à tous. Le prince remarqua qu'il était tout tremblant. « Pas un de nous n'a cette idée, » répondit Mushkine. « Comment pouvez-vous la supposer chez quelqu'un et croire que... Quelle étrange idée vous avez! Qu'est-ce qu'il y a donc, Hippolyte ?»« Qu'est-ce qu'il y a? Que lui est-il arrivé encore ?» demandaient les assistants. Tous s'approchèrent, bien que plusieurs eussent déjà commencé à manger. Le paquet, avec son cachet rouge, semblait exercer une action magnétique sur toute la société. C'est moi-même qui ai écrit cela hier, aussitôt après vous avoir promis que je viendrais habiter chez vous, prince. Cet article m'a pris toute la journée d'hier et une partie de la nuit. Je l'ai fini ce matin. Je me suis endormi un peu avant le lever du jour et j'ai fait un rêve. Ne vaut-il pas mieux remettre à demain ? Interrompit timidement le prince. Demain, il n'y aura plus de temps, répondit Hippolyte avec un sourire hystérique. « Du reste, ne vous inquiétez pas, ma lecture durera 40 minutes, ou tout au plus 1 heure. » Et voyez comme la curiosité générale est éveillée. Tous se sont approchés, tous regardent mon cachet. Si je n'avais pas mis l'article sous enveloppe, l'effet aurait été nul. Voilà ce que c'est que le mystère. Faut-il ou non décacheter, messieurs ? Cria-t-il en riant de son rire étrange, tandis que ses yeux étincelaient. Un secret, un secret. Mais vous rappelez-vous, prince, qui a dit qu'il n'y aurait plus de temps? C'est un ange grand et puissant qui prophétise cela dans l'Apocalypse. Il vaut mieux ne pas lire, s'écria tout à coup Eugène Pavlovitch. Il avait l'air si inquiet que cela parut étrange à plusieurs. Ne lisez pas, fit à son tour le prince en posant sa main sur le paquet. Comment, une lecture? Ce n'est pas le moment, on va lyncher, observa quelqu'un. Un article? Il va l'envoyer à une revue, sans doute, questionna un second visiteur. C'est peut-être ennuyeux, ajouta un troisième. Mais qu'est-ce que c'est? Demandaient les autres. Cependant, l'appréhension dont témoignait le geste de Mushkine avait effrayé Hippolyte lui-même. « Ainsi, il ne faut pas lire ? » dit-il à voix basse au prince. Et un sourire forcé fit grimacer ses lèvres devenues bleuâtres. « Il ne faut pas lire ? » murmura-t-il en enveloppant tout le public d'un regard où se révélait encore le violent désir de s'épancher quand même. Puis il s'adressa de nouveau au prince. « Vous avez peur ?»«
De quoi ?»
demanda l'interpellé, dont le visage changeait à vue d'œil. Hippolyte se leva brusquement, comme si on l'avait arraché de dessus son siège.
« Quelqu'un a-t-il 2 grivenas, 20 kopecks, une pièce quelconque de menu monnaie »
interrogea-t-il.
« Voilà !»
fit aussitôt Lebedev, qui tendit un 2 grivnenik au malade. Il pensait que celui-ci était peut-être devenu fou.
« Viera Lukanyovna, » dit vivement Hippolyte, « prenez cette pièce de monnaie et jetez-la sur la table. Nous allons décider la chose à croix ou pile. Croix, c'est la lecture. »
La jeune fille effrayée considéra tour à tour la petite pièce, Hippolyte et son père. Après quoi, elle s'exécuta, mais avec embarras et en levant les yeux en l'air, comme si elle-même ne se fût pas cru permis de regarder la pièce de monnaie. Jeté sur la table, le 2 grivenik présenta, en retombant, le côté croix. La décision du sort causa une sorte de consternation à Hippolyte.
« Il faut lire »
murmura-t-il, aussi pâle que s'il avait reçu notification d'un arrêt de mort, et il se tut pendant une demi-minute.
« Mais du reste, qu'est-ce que cela ? Est-il possible que je vienne de jouer mon sort à croix ou pile ?»
reprit-il soudain avec un frisson. En même temps, il regardait ceux qui l'entouraient, et ses yeux avaient toujours leur singulière expression de franchise.
« Mais c'est une particularité psychologique étonnante »
cria-t-il tout à coup en s'adressant au prince d'un ton qui témoignait une surprise profonde.
« C'est quelque chose d'inconcevable, prince »
poursuivit-il avec animation, et comme un homme qui reprend conscience de lui-même.
« Notez cela, prince, souvenez-vous-en. Vous recueillez, paraît-il, des documents au sujet de la peine de mort. On me l'a dit. Oh Dieu, quelle absurdité !»
Il s'assit sur le divan, s'accouda contre la table et mit sa tête dans ses mains.
« C'est même une honte. Mais que m'importe que ce soit honteux !»
ajouta-t-il presque aussitôt en relevant la tête. Puis, avec une résolution subite,
« Messieurs, messieurs, je vais rompre le cachet, »
déclara-t-il.
« Du reste, je ne force personne à écouter. »
L'émotion faisait trembler ses mains lorsqu'il décacheta le paquet. Il en tira quelques feuilles de papier à lettres, de petit format, qui étaient toutes couvertes d'une fine écriture. Après les avoir placées devant lui, il commença à les mettre en ordre.
« Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'on va lire ?»
murmuraient plusieurs d'un air sombre. Les autres se taisaient. Tous pourtant s'étaient assis et regardaient avec curiosité. Peut-être attendait-il réellement quelque chose d'extraordinaire. Viera, immobile derrière la chaise de son père, pleurait presque de frayeur. Kolia n'était guère moins alarmé que la jeune fille. Soudain, Lebedev, qui avait déjà repris sa place, se leva à demi, saisit les flambeaux et les rapprocha d'Hippolyte, afin que celui-ci y vît plus clair pour lire.
« Messieurs, vous allez voir ce que c'est, » dit le jeune homme, et il commença brusquement sa lecture. « Explication nécessaire. Épigraphe, après moi le déluge. Fi, le diable m'emporte !»
cria-t-il. On aurait dit qu'il venait de se brûler.
« Est-il possible que j'aie mis sérieusement une épigraphe si sotte ? Écoutez, messieurs, je vous assure que tout cela, au bout du compte, n'est peut-être qu'un tas d'épouvantables bêtises. Ce sont seulement quelques idées à moi. Si vous pensez qu'il y a là quelque chose de mystérieux ou de défendu, en un mot, il faudrait lire sans préambule. »
interrompit Gagna.
Il lanterne, ajouta un autre.
C'est beaucoup de paroles,
observa Rogojine, qui jusqu'alors était resté silencieux. Hippolyte le regarda tout à coup. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Rogojine eut un sourire plein d'amertume et laissa tomber lentement une phrase énigmatique.
Ce n'est pas la monture qu'il faut à cet objet, mon garçon. » Personne, sans doute, ne comprit ce que Rogojine voulait dire par là. Néanmoins, ces mots produisirent une impression assez étrange sur tout le monde. Chacun eut immédiatement la même idée. Sur Hippolyte, la phrase de Rogojine fit un effet terrible. Il fut pris d'un tressaillement tel que le prince tendit le bras pour le soutenir, et il aurait certainement crié si la voix ne s'était soudain arrêtée dans son gosier. Pendant toute une minute, il ne put proférer un mot, et, respirant péniblement, ne cessa de regarder Rogojine. À la fin, quelques syllabes sortirent avec effort de sa gorge. « Ainsi, c'est vous qui êtes venu ? Vous ?»«
Je suis venu. Comment ? Quoi ?»
répondit Rogojine qui ne comprenait rien à une pareille question. Mais une sorte de rage s'empara tout à coup du malade, ses joues s'empourprèrent, et il répliqua avec véhémence. « Vous êtes venu chez moi la semaine passée, la nuit, entre 1h et 2h du matin. Je vous avais fait visite la veille dans la matinée. C'était vous, avouez-le, c'était vous. »
« La semaine passée ? La nuit ? Mais réellement, n'as-tu pas perdu l'esprit, mon garçon ?»
Silencieux, Hippolyte porta l'index à son front et parut réfléchir pendant une minute. Mais tout à coup, le pâle et craintif sourire qui tordait ses lèvres prit une expression de malice, de triomphe même.
« C'était vous ! »
répéta-t-il enfin presque tout bas, mais du ton le plus convaincu. « Vous êtes venu chez moi, et vous vous êtes assis, sans rien dire, sur une chaise, près de la fenêtre. Vous êtes resté là 1 heure, et plus. Votre visite a eu lieu vers 00h ou 01h, et il était plus de 2 heures quand vous êtes parti. C'était vous, vous. Pourquoi vous m'avez fait peur? Pourquoi vous êtes venu me tourmenter? Je ne le comprends pas, mais c'était vous. » Et une haine immense étincela soudain dans son regard, quoiqu'il continuât à trembler de frayeur.
« Vous allez savoir tout cela à l'instant, messieurs. Écoutez. »
Il saisit précipitamment son manuscrit. Les feuillets ne se suivaient pas, et il entreprit de les mettre en ordre, mais ce fut à grand-peine qu'il y parvint, tant ses mains tremblaient.
« Il est fou, ou il a le délire !»
fit Rogojine entre haut et bas. À la fin, la lecture commença. Embarrassé et peu intelligible pendant les 5 premières minutes, par suite de l'émotion qui serrait la gorge du lecteur. Puis nette et distincte lorsque la voix de celui-ci se fut affermie. Parfois seulement, une toux assez forte interrompait Hippolyte. Il était très enroué quand il arriva au milieu de son article. À mesure qu'il avançait dans sa lecture, il s'animait davantage et les auditeurs éprouvaient une impression de plus en plus maladive. Voici cet article. Mon explication nécessaire. Après moi, le déluge. Hier matin, le prince est venu chez moi. Au cours de la conversation, il m'a proposé d'aller habiter sa villa. Je savais qu'il ne manquerait pas d'insister dans ce sens, et j'étais sûre que pour me faire accepter son offre, il me dirait sans détour « La mort vous sera plus douce à la campagne, parmi les gens et les arbres. » Car c'est ainsi qu'il s'exprime. Mais aujourd'hui, il n'a pas prononcé le mot « mort ». Il a dit « La vie vous sera plus douce. » Ce qui pourtant revient à peu près au même pour moi dans ma position. Je lui ai demandé quel sens il attachait à ces arbres dont il parlait toujours, et pourquoi il me les jetait ainsi à la tête. Sa réponse m'a appris une chose qui m'a étonnée. Moi-même, paraît-il, j'aurais dit l'autre soir que j'étais venu à Pavlovsk pour voir une dernière fois des arbres. J'ai répliqué qu'au moment de mourir, il était indifférent d'avoir sous les yeux des arbres ou un mur de briques, et que pour 15 jours, ce n'était pas la peine de faire tant de cérémonies. Le prince n'a pas hésité à le reconnaître. Mais, suivant lui, la verdure et l'air pur produiront certainement en moi quelques changements physiques. Il pense aussi que mon agitation et mes rêves ne seront plus les mêmes à la campagne, qu'ils deviendront peut-être moins pénibles. Je lui ai fait observer en riant que son langage sentait le matérialisme, à quoi il a répondu, avec son sourire habituel, qu'il avait toujours été matérialiste. Comme il ne ment jamais, ce n'est pas là une vaine parole. Son sourire est beau, à présent je l'ai bien examiné. Je ne sais si maintenant je l'aime ou ne l'aime pas. Je n'ai pas le temps de me casser la tête sur cette question. Je remarque seulement une chose. La haine que je nourrissais contre lui depuis 5 mois s'est éteinte complètement dans ces dernières semaines. Qui sait ? Peut-être suis-je allée à Pavlovsk, surtout pour le voir. Mais pourquoi ai-je alors quitté ma chambre ? Un condamné à mort ne doit pas bouger de son coin. Et si maintenant je n'avais pas pris une résolution définitive, si au contraire j'étais décidée à attendre jusqu'à la dernière heure, certes, je ne quitterais pas ma chambre pour rien au monde, et je n'accepterais pas l'offre d'aller mourir chez le prince à Pavlovsk. Il faut que je me hâte, et que d'ici à demain j'aie terminé toute cette explication. Je n'aurai donc pas le temps de relire et de corriger mon travail. La seconde lecture sera celle que je ferai demain au prince et à 2 ou 3 personnes que je compte trouver chez lui. Comme il n'y aura pas ici un seul mot de faux, mais que tout sera de la dernière vérité, je suis curieux de savoir quelle impression cela produira sur moi-même, à l'heure et au moment où je me relirai. Du reste, il était parfaitement inutile d'écrire les mots « dernière vérité ». Si ce n'est pas la peine de vivre quand on n'a plus que 15 jours devant soi, ce n'est pas non plus la peine de mentir pour si peu de temps. Voilà la meilleure preuve que j'écrirai seulement la vérité. Nota bene, ne pas oublier cette idée. À l'heure qu'il est, ne suis-je pas fou, du moins par moment. On m'a affirmé que parfois, dans la dernière phase de leur maladie, les phtisiques perdent momentanément la raison. Vérifiez cela demain par l'impression que ma lecture produira sur les auditeurs. Ne pas manquer d'éclaircir entièrement cette question. Impossible de rien entreprendre avant d'être fixé là-dessus. Il me semble que je viens d'écrire une terrible sottise, mais je l'ai déjà dit, je n'ai pas le temps de corriger. D'ailleurs, quand même je m'apercevrai que je me contredis toutes les 5 lignes, je me promets de ne pas faire la moindre correction dans ce manuscrit. C'est exprès que je tiens à n'y rien changer. Demain, en le lisant, je veux m'assurer que ma pensée suit un cours conforme à la logique et que je remarque mes fautes. S'il en est ainsi, je pourrai tenir pour exactes toutes les conclusions auxquelles je suis arrivée en raisonnant depuis 6 mois dans cette chambre. S'il en est autrement, je saurai que ce n'est qu'un délire. Il y a 2 mois encore, si j'avais dû, comme à présent, quitter définitivement ma chambre et dire adieu au mur de Meillet, je suis sûre que j'en aurais été triste. Maintenant, je ne sens rien. Pourtant, demain, je quitterai, pour toujours, la chambre et le mur. Ainsi, ma conviction que, pour 2 semaines, ce n'est pas la peine de rien regretter, ni de s'abandonner à une impression quelconque, cette conviction a triomphé de ma nature et peut dès maintenant commander à tous mes sentiments. Mais est-ce vrai? Est-il vrai que ma nature soit maintenant tout à fait vaincue? Si, à présent, on me mettait à la torture, je crierais, assurément, et je ne dirais pas que la souffrance est insignifiante quand on n'a plus que 15 jours à vivre. Mais est-ce vrai qu'il ne me reste plus que 15 jours à vivre? L'autre soir, à Pavlovsk, j'ai menti. Botkine ne m'a rien dit et ne m'a jamais vu. Mais il y a 8 jours, on m'a amené l'étudiant Kislorodov. Il est matérialiste, athée et nihiliste. Voilà justement pourquoi je l'avais fait appeler. Il me fallait un homme qui, sans y mettre de forme, me dit franchement toute la vérité. C'est ce qu'il a fait. Non seulement sans la moindre hésitation, mais même avec un visible plaisir. Ce qui, à mon avis, était de trop. Il m'a carrément déclaré qu'il me restait environ 1 mois à vivre,
peut-être un peu plus si les circonstances étaient favorables, mais que je pouvais aussi m'en aller beaucoup plus tôt. Suivant lui, je puis même mourir subitement, demain, par exemple. « On a vu de ces cas, » m'a-t-il dit, « pas plus tard qu'avant-hier, à Kolomno, une jeune dame phtisique, dont l'état ressemblait beaucoup au vôtre, s'est sentie mal tout d'un coup au moment où elle se disposait à aller faire son marché. Elle s'est couchée sur un divan, a poussé un soupir et est morte. » Kislorodov m'a communiqué tout cela du ton le plus indifférent. En me parlant avec cette insensibilité, il avait l'air de me donner un témoignage d'estime. J'étais à ses yeux, semblait-il, un être supérieur, un homme aussi détaché de tout que lui-même, qui sans doute ne tient nullement à la vie. Quoi qu'il en soit, un fait est certain, je n'ai plus qu'un mois à vivre. Je suis persuadée que sur ce point Kislorodov ne s'est pas trompé. J'ai été fort surpris tantôt en entendant le prince me parler de mes mauvais rêves. Comment les a-t-il devinés? Il m'a dit en propres termes qu'à Pavlovsk, mon agitation et mes rêves ne seraient plus les mêmes. Ou il est médecin, ou il a réellement une intelligence extraordinaire qui lui permet de découvrir bien des choses. Mais qu'au bout du compte, il soit un idiot, cela n'est pas douteux. Justement, lorsqu'il est arrivé, je venais de faire un joli rêve. Du reste, j'ai maintenant de ces visions par centaines. Je m'étais endormie, je pense, une heure avant sa visite, et j'avais rêvé que je me trouvais dans une chambre, mais pas dans la mienne. La pièce était claire, plus spacieuse, plus haute et mieux meublée que ma chambre à coucher. Il y avait là une armoire, une commode, un divan et un lit. Ce dernier, grand et large, était couvert d'une courte pointe de soie verte. Mais dans cette chambre, j'aperçus un animal affreux, une sorte de monstre. Il ressemblait à un scorpion, mais ce n'en était pas un. C'était une bête beaucoup plus laide et plus effrayante, qui me faisait l'effet d'être la seule de son espèce. Je me figurais que cet animal avait surgi exprès chez moi, et qu'il y avait quelque chose de mystérieux dans cette circonstance. Je pus très bien l'examiner. C'était un reptile long de 4 verchocs, qui avait le corps squameux et couleur de cannelle. Sa tête était grosse comme 2 doigts, mais il allait en s'amincissant de plus en plus jusqu'à la queue, si bien que le bout de celle-ci ne dépassait guère en épaisseur le 10e d'un verchoc. 2 pattes, l'une à droite, l'autre à gauche, sortaient du tronc à un verchoc de la tête et formaient avec le corps un angle de 45 degrés. Elles étaient longues de 2 verchocs. Cette conformation donnait à l'animal, vu d'en haut, l'aspect d'un trident. La tête, je ne la remarquais pas bien, mais je distinguais 2 petites moustaches qui ressemblaient à 2 fortes aiguilles et qui étaient aussi couleur de cannelle. Au bout de la queue et à l'extrémité de chaque patte se trouvaient encore 2 moustaches du même genre. Il y en avait donc 8 en tout. L'animal courait extrêmement vite dans la chambre, en s'appuyant sur ses pattes et sur sa queue. Le tronc et les pattes se tortillaient, comme de petits serpents, avec une rapidité extraordinaire, et c'était quelque chose de fort laid à voir. J'avais grand peur d'être piqué par cette bête. On m'avait dit qu'elle était venimeuse. Mais une autre inquiétude me tourmentait bien davantage. Qui l'a envoyée dans ma chambre? Que veut-on me faire et quel mystère y a-t-il là? Me demandai-je anxieusement. L'animal se cachait sous la commode, sous l'armoire, se glissait dans les coins. Je m'assis sur une chaise et repliai mes jambes sous moi. Il traversa rapidement toute la chambre, puis se déroba à ma vue en se fourrant quelque part près d'une chaise. Effrayé, je me mis à le chercher des yeux, mais, vu la façon dont j'étais assis sur mon siège, j'espérais qu'il m'y laisserait tranquille. Tout à coup, j'entendis un petit bruit sec qui se produisait derrière moi, tout près de ma nuque. Je me retournai et j'aperçus le reptile grimpant le long du mur. Il était déjà arrivé à la hauteur de ma tête, et sa queue, agitée par un mouvement très rapide, me touchait même les cheveux. Je me levai brusquement. l'animal disparut. Je n'osais me mettre au lit, de peur qu'il ne se glissât sous l'oreiller. Ma mère entra dans la chambre avec un monsieur de sa connaissance. Ils commencèrent à donner la chasse aux reptiles, mais ils étaient plus tranquilles que moi et n'éprouvaient même aucune frayeur. Il est vrai qu'ils ne comprenaient rien. Soudain, le monstre sortit de sa retraite et se dirigea vers la porte. Cette fois, il se mouvait tout doucement, sans bruit. La lenteur de ses allures, qui paraissait préméditée, lui donnait un aspect plus répugnant encore. Ma mère ouvrit la porte et appela Norma, notre chienne, un énorme terre-neuve aux poils noirs et ébouriffés. Elle est morte il y a 5 ans. Après s'être élancée dans la chambre, Norma s'arrêta, comme pétrifiée, en face du reptile. Celui-ci s'arrêta aussi. Cependant, il continuait à se tortiller. Les extrémités de ses pattes et de sa queue résonnaient toujours sur le parquet. Si je ne me trompe, l'effroi mystique est un sentiment que les animaux ne sont pas susceptibles d'éprouver. Pourtant, je crus remarquer alors, dans la terreur de Norma, quelque chose de fort extraordinaire et, pour ainsi dire, de mystique, comme si elle pressentait aussi quelque secret fatal dans l'apparition de l'affreuse bête. La chienne reculait lentement devant le reptile. Ce dernier s'avançait avec précaution vers son ennemi. Il paraissait n'attendre que le moment de s'élancer sur elle et de la piquer. Norma tremblait de tous ses membres, mais, nonobstant son épouvante, elle fixait sur le monstre un regard plein de colère. Soudain, elle montra lentement ses dents terribles, ouvrit toute grande sa large gueule rouge et, prenant enfin son parti, happa brusquement le reptile. Sans doute, il fit de furieux efforts pour échapper aux crocs de la chienne, car elle dut le rattraper au vol et à 2 reprises l'engloutit dans sa gueule. On entendit les écailles craquer sous les dents du terre-neuve. La queue et la tête de l'animal, qui sortaient de la gueule, s'agitaient avec une rapidité effrayante. Tout à coup, Norma poussa un hurlement plaintif. Le reptile avait réussi à lui piquer la langue. La douleur força la pauvre chienne à desserrer ses mâchoires. Et j'aperçus dans sa gueule la hideuse bête qui, à moitié broyée, frétillait encore. De son corps, presque réduit à l'état de bouillie, s'échappait en abondance un liquide blanc, pareil au sang d'une blatte écrasée. Et le reptile imbibait de ce venin la langue de Norma. Alors je m'éveillai et le prince entra. Hippolyte interrompit brusquement sa lecture. « Messieurs, déclara-t-il avec une certaine confusion, je ne me suis pas relu, mais j'ai, je crois, écrit beaucoup de choses inutiles. Ce songe... » « En effet, s'empressa de dire Gagnat. Et il y a là, j'en conviens, trop de détails personnels, j'entends trop de choses qui se rapportent exclusivement à moi. » En prononçant ces mots, Hippolyte avait l'air las et brisé. Il essuyait avec un mouchoir la sueur qui ruisselait de son front. « Oui, vous vous occupez trop de vous !» fit d'une voix sifflante Lébédef. « Messieurs, encore une fois, je ne m'impose à l'attention de personne. Ceux qui ne veulent pas m'entendre sont libres de s'en aller. » « Il met les gens à la porte d'une maison qui n'est pas la sienne. » bougonna sotto voce Rogojin. Mais comment nous lever tous et partir ? Observa brusquement Ferdichenko, qui jusqu'alors ne s'était pas permis d'élever la voix. Hippolyte baissa soudain les yeux et saisit son manuscrit, mais dans la même seconde il releva la tête. Ses yeux étincelèrent et les 2 taches rouges s'accentuèrent sur ses joues. Vous ne m'aimez pas du tout, dit-il en regardant fixement Ferdichenko. Des rires se firent entendre. Du reste, la plupart ne riaient pas. Le jeune homme devint tout rouge. « Hippolyte, dit le prince, ne lisez plus et remettez-moi votre manuscrit. Vous coucherez ici dans ma chambre. Nous causerons avant de nous endormir, et encore demain.
mais qu'il soit bien entendu qu'à l'avenir vous laisserez de côté cet article. Voulez-vous ?
Est-ce que c'est possible ? Répondit Hippolyte d'un air profondément étonné.
« Messieurs ! Cria-t-il avec une animation fébrile. « C'est un sot épisode dans lequel je n'ai pas su me conduire. Je n'interromprai plus ma lecture. Que ceux qui veulent écouter, écoutent. »
Il but à la hâte une gorgée d'eau, s'accouda au plus vite contre la table pour se dérober au regard, et, en dépit de tout, se remit à lire. Du reste, sa confusion disparut bientôt.
L'idée que ce n'est pas la peine de vivre quelques semaines, poursuivit-il, a commencé, si je ne me trompe, à envahir mon esprit il y a un mois, quand il me restait encore 4 semaines à vivre. Mais elle n'a pris complètement possession de moi que depuis 3 jours, depuis cette soirée passée à Pavlovsk. La première fois que je me suis senti pleinement pénétré de cette pensée, c'est sur la terrasse du prince, juste au moment où je m'étais imaginé de faire un dernier essai de la vie. Je voulais voir des hommes et des arbres. Il paraît que je l'ai dit moi-même. Je m'échauffais, je soutenais le droit de Bourdovski, mon prochain. Je rêvais qu'ils allaient tous m'ouvrir leurs bras et me serrer contre leur poitrine, qu'il y aurait entre eux et moi je ne sais quel échange de pardon. En un mot, j'ai fini comme un imbécile. Et voilà que dans ces mêmes instants se produisit aussi en moi la conviction définitive. À présent, je me demande comment elle s'est fait attendre pendant 6 mois entiers. Je me savais positivement atteint d'un mal qui ne pardonne pas, et ne me faisait aucune illusion. Mais j'éprouvais d'autant plus ardemment le désir de vivre que je me rendais mieux compte de mon état. Je me raccrochais à la vie, je voulais vivre coûte que coûte. J'admets que j'ai pu alors m'irriter contre la destinée aveugle et sourde qui, assurément sans savoir pourquoi, avait décidé de m'écraser comme une mouche. Mais comment se fait-il que je ne m'en sois pas tenu à la colère? Pourquoi donc ai-je commencé à vivre, sachant que ce n'était pas la peine de commencer? Ai-je tenté un essai dont je reconnaissais d'avance l'inutilité? Et pourtant, je ne pouvais même pas lire un livre jusqu'au bout, j'avais renoncé à la lecture. À quoi bon lire? À quoi bon s'instruire pour 6 mois? Cette pensée m'a plus d'une fois fait jeter le livre que j'avais en main. Oui, le mur de la maison Meyer pourrait en raconter long. J'y ai noté bien des choses. Il n'y avait pas sur ce sale mur une seule tache que je ne connusse. Maudit mur! Et pourtant, il m'est plus cher que tous les arbres de Pavlovsk, c'est-à-dire qu'il devrait l'être, si à présent tout ne m'était pas égal. Je me rappelle maintenant avec quel avide intérêt je m'étais mis alors à suivre leur vie. Jamais elle ne m'avait autant intéressé. Parfois, j'attendais impatiemment Kolia, lorsque moi-même j'étais trop souffrant pour pouvoir sortir de ma chambre. Les moindres bagatelles, les ragots les plus insignifiants m'occupaient à un tel point que je crois bien être devenu cancanier. Par exemple, je ne comprenais pas comment ces hommes, qui avaient devant eux tant de vie, ne savaient pas s'enrichir. Du reste, je ne le comprends pas encore maintenant. Je connaissais un pauvre diable, qui, à ce qu'on m'a raconté plus tard, est mort de faim. Et je me souviens que cette nouvelle me mit hors de moi. Si l'on avait pu ressusciter ce malheureux, je crois que je l'aurais tué. Parfois je me sentais mieux durant des semaines entières, et j'aurais pu quitter ma chambre. Mais à la fin, la rue m'avait exaspéré. Aussi restais-je exprès de longues journées enfermées chez moi, bien que pouvant sortir comme tout le monde. Je ne pouvais souffrir la foule remuante, affairée, inquiète et morne que je voyais aller et venir autour de moi sur le trottoir. Pourquoi l'éternelle tristesse de ces gens-là, leur continuelle agitation, cette sombre colère de tous les instants? Car ils sont furieux, furieux! À qui la faute s'ils sont malheureux et s'ils ne savent pas vivre, ayant en perspective 60 ans de vie? pourquoi Zarnitzine s'est-il laissé mourir de faim lorsqu'il avait 60 années devant lui ? Et chacun, montrant ses haillons, ses mains calleuses, s'emporte et crie « Nous travaillons comme des bœufs, nous peinons, nous avons une faim de chien et nous sommes pauvres. D'autres ne travaillent pas, ne peinent pas et sont riches. » L'éternel refrain. À côté d'eux, bat le pavé du matin au soir un malheureux saute-ruisseau de naissance noble, Ivan Fomitch Sourikov. Il demeure dans notre maison, au-dessous de nous. On le voit courir toute la journée, vêtu d'un habit troué au coude et où manquent plusieurs boutons. Causez avec lui. Je suis pauvre, indigent, réduit à la mendicité. Ma femme est morte. Je n'avais pas le moyen de lui acheter des médicaments. L'hiver, mes enfants ont été gelés. Ma femme aînée est devenue une femme entretenue. Il ne cesse de geindre et de pleurnicher. Oh, jamais, pas plus autrefois que maintenant, je n'ai eu aucune compassion de ces imbéciles. Je le dis avec orgueil. Pourquoi donc lui-même n'est-il pas un Rothschild ? À qui la faute s'il n'est pas millionnaire comme Rothschild ? S'il n'a pas des montagnes d'impérial et de Napoléon ? Puisqu'il vit, tout est en son pouvoir. À qui la faute s'il ne comprend pas cela ? Oh, maintenant, tout m'est égal. Maintenant, ce n'est plus la peine de me fâcher. Mais alors, je le répète, la nuit, je mordais littéralement mon oreiller, et de rage, je déchirais mes couvertures. Oh, quel rêve je faisais alors ! Combien j'eusse souhaité qu'à 18 ans, on me jetât tout d'un coup dans la rue, à peine vêtu, à peine couvert, qu'on m'abandonnât sur le pavé, seul, sans logement, sans travail, sans pain, sans parents, sans amis, dans une ville immense. Affamé, maltraité, ça aurait été tant mieux. Mais bien portant. Alors, j'aurais montré... Qu'est-ce que j'aurais montré ? Oh, pouvez-vous supposer que j'ignore combien, déjà sans cela, je me suis abaissée par mon explication ? Qui donc ne me considérera pas comme un gamin ignorant la vie, sans songer que j'ai plus de 18 ans ? Et que durant ces 6 mois, je suis devenu un vieillard. Mais qu'on se moque, et qu'on traite tout cela de conte. En effet, je m'entretenais de conte. C'était l'occupation de mes longues nuits sans sommeil. Je me les rappelle tous à présent. Mais se peut-il que je les répète maintenant, maintenant que, même pour moi, le temps des contes est passé ? Ces rêveries m'amusaient quand je voyais clairement qu'il m'était interdit d'étudier même la grammaire grecque, comme j'en avais eu une fois l'idée. Je mourrais avant d'être arrivé à la syntaxe, pensais-je dès la première page, et je jetai le livre sous la table. Il y est encore. J'ai défendu à Matrena de le ramasser. Celui dans les mains de qui tombera mon explication, et qui aura la patience de la lire jusqu'au bout, me regardera peut-être comme un fou, ou même comme un collégien. Mais le plus probable, c'est qu'il verra en moi un condamné à mort, qui, naturellement, trouve que tous les hommes, excepté lui, ne font pas assez de cas de la vie, la dépensent sans se rendre compte de sa valeur, en jouissent trop paresseusement, et que, par conséquent, tous, jusqu'au dernier, en sont indignes. Eh bien, je déclare que mon lecteur se trompera, et que ma situation de condamné à mort n'influe en rien sur ma conviction. Demandez-leur seulement, demandez-leur en quoi tous, depuis le premier jusqu'au dernier, font consister le bonheur. Oh, soyez sûrs que si Colomb a été heureux, ce n'est pas après avoir découvert l'Amérique, mais lorsqu'il était en train de la découvrir. Soyez sûrs que son bonheur a atteint le point culminant 3 jours peut-être avant la découverte du Nouveau Monde, alors que les matelots révoltés voulaient dans leur désespoir virer de bord et retourner en Europe. Qu'importe ici le Nouveau Monde ? Colomb l'avait à peine vu quand il est mort, et il ignorait au fond ce qu'il avait découvert. L'important, c'est la vie seule. Qu'est-ce qu'une trouvaille quelconque auprès de la découverte incessante, éternelle de la vie ? Mais à quoi bon ces phrases ? Tout ce que je dis ici a, j'en ai peur, un tel air de lieu commun
qu'on me prendra sans doute pour un petit écolier qui se pose en soleil naissant. Ou bien on dira que je voulais peut-être exprimer quelque chose, mais que, malgré tout mon désir, je n'ai pas su m'expliquer. J'observerai pourtant que dans toute pensée géniale, neuve, ou même simplement sérieuse, éclose sous un crâne humain, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut communiquer à autrui. Vous aurez beau écrire des volumes entiers, ressasser votre idée sous toutes les formes durant 35 ans, il restera toujours quelque chose qui, en dépit de vos efforts, ne voudra pas sortir de votre cerveau et y séjournera à jamais. Vous mourrez peut-être sans avoir transmis à personne le meilleur de vos idées. Mais si je suis maintenant incapable, moi aussi, de rendre tout ce qui m'a tourmenté pendant ces 6 mois, on comprendra du moins que j'ai peut-être payé fort cher la conviction définitive à laquelle je suis arrivée en ce moment. Voilà ce que, pour certaines raisons à moi connues, j'ai cru devoir mettre en lumière dans mon explication. Je poursuis. Chapitre 6. Je ne veux pas mentir. Durant ces 6 mois, je ne me suis pas toujours dérobée au mouvement de la vie réelle. Parfois même, l'activité pratique me distrayait au point que j'oubliais ma condamnation, ou pour mieux dire, je ne voulais pas y penser. Soit dit en passant, voici dans quelles conditions je vivais alors. Il y a 8 mois, lorsque ma maladie commença à prendre une tournure grave, je rompis toute relation avec le dehors et cessai de voir mes anciens camarades. Comme j'avais toujours été un homme assez morose, je fus bientôt rayé de leurs papiers, ce qui assurément serait arrivé tout de même sans cette circonstance. À la maison, je m'organisais aussi une existence solitaire. Il y a 5 mois, je m'enfermais une fois pour toutes dans ma chambre et m'isolais complètement de ma famille. On m'obéissait toujours et personne n'osait entrer chez moi, sauf aux heures réglementaires où l'on devait faire ma chambre et m'apporter mon dîner. Ma mère recevait mes ordres en tremblant et ne se permettait pas de souffler mot devant moi dans les rares occasions où je consentais à la voir. Elle fouettait sans cesse les enfants pour qu'ils ne fassent pas de bruit et ne troublassent pas mon repos. Je me plaignais souvent de leurs cris. Ils doivent me porter dans leur cœur à présent. Le fidèle Kolia, comme je l'ai surnommé, a eu aussi, je crois, passablement à souffrir de mon caractère. Dans ces derniers temps, lui-même m'a rendu l'appareil. Tout cela est naturel. Les hommes n'ont été créés que pour se faire souffrir mutuellement. J'avais remarqué qu'il supportait mon irascibilité comme s'il s'était juré d'être indulgent pour un malade. Et bien entendu, cela m'irritait. Mais il s'était imaginé, paraît-il, d'imiter l'humilité chrétienne du prince, ce qui ne laissait pas d'être un peu ridicule. C'est un garçon jeune et enthousiaste qui, naturellement, prend exemple sur autrui. Mais parfois, je trouvais qu'il était temps pour lui de dégager enfin sa personnalité. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi affligé Sourikov, le commissionnaire qui demeure au-dessus de nous et qui fait des courses du matin au soir. Je lui démontrais continuellement que s'il était pauvre, la faute en était à lui, si bien qu'à la fin il n'osa plus venir chez moi. C'est un homme très humble, un modèle d'humilité. Nota bene, on prétend que l'humilité est une grande force. Il faudra questionner le prince à ce sujet, c'est lui qui dit cela. Mais au mois de mars dernier, étant monté chez lui pour voir ses enfants, qui, disait-il, avaient été gelés, je souris devant le cadavre de son jeune fils, et j'expliquai de nouveau à Sourikov que c'était sa faute. Soudain, les lèvres du malheureux commencèrent à s'agiter. D'une main, il me saisit l'épaule, et de l'autre me montra la porte en me disant à voix basse « Allez-vous-en !» Sur le moment, cette façon d'agir me plut fort,
je fus ravie en me voyant congédiée de la sorte. Mais plus tard, je me rappelais avec un sentiment pénible les paroles de Sourikov. Bien malgré moi, j'éprouvais à son égard une pitié étrange, méprisante. Même sous le coup d'une telle offense, je sens que je l'ai offensé, quoique ce ne fût pas mon intention. Même dans un pareil moment, cet homme ne pouvait se fâcher. Je le jure, le frémissement de ses lèvres dans cette circonstance ne provenait pas du tout de la colère. Lorsqu'il m'empoigna l'épaule et prononça son majestueux « Allez-vous-en !» il n'était nullement irrité. Il y avait chez lui de la dignité, beaucoup même, une dignité qui ne lui seyait aucunement, à ce point qu'elle produisait un effet comique. Mais il n'y avait pas de colère. Peut-être s'était-il mis tout d'un coup à me mépriser. Depuis lors, quand je le rencontrais dans l'escalier, ce qui arriva deux ou trois fois, il s'empressait de m'ôter son chapeau, chose qu'il ne faisait jamais auparavant. Mais au lieu de s'arrêter comme autrefois, il passait rapidement et d'un air confus. En tout cas, s'il me méprisait, c'était à sa façon. Il avait le mépris humble. Peut-être aussi ne fallait-il voir dans son coup de chapeau que la politesse craintive d'un débiteur vis-à-vis du fils de sa créancière, car il doit de l'argent à ma mère, et il lui est impossible de s'acquitter. Cette conjecture est même la plus probable. Je voulus d'abord avoir une explication avec lui. Je suis sûr qu'au bout de 10 minutes, il m'aurait demandé pardon, mais ensuite, je jugeai qu'il valait mieux le laisser tranquille. Il y a 10 jours, Rogojin passa chez moi pour me demander des renseignements au sujet d'une affaire sur laquelle je crois inutile de m'étendre ici. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais j'avais beaucoup entendu parler de lui. Je lui appris tout ce qu'il voulait savoir, et il ne tarda pas à se retirer. Je n'avais pas à lui rendre sa visite, puisqu'il n'était venu chez moi que pour affaires. Mais il m'avait grandement intéressé, et pendant tout le reste de la journée, j'eus l'esprit occupé de pensées étranges, si bien que le lendemain, je me décidai à l'aller voir moi-même. Rogojin me reçut avec un mécontentement peu dissimulé. Il me fit même entendre, délicatement, que des rapports suivis entre nous n'avaient aucune raison d'être. Néanmoins, je passai chez lui 1 heure, pendant laquelle je ne m'ennuyais pas du tout, et je crois qu'il ne s'ennuya pas non plus avec moi. Entre nous, le contraste était tel que nous ne pouvions pas ne pas le remarquer, moi surtout. J'avais déjà fait le compte des jours qu'il me restait à vivre. Lui, au contraire, dans le plein épanouissement de la vie, n'avait que faire de pareilles supputations, et nul souci n'existait pour lui en dehors de sa toquade. Que M. Rogojin me pardonne cette expression, où se trahit la maladresse d'un littérateur inexpérimenté. Nonobstant son accueil peu aimable, il me fit l'effet d'un homme intelligent et capable de comprendre bien des choses, quoiqu'il ne s'intéresse guère à ce qui ne le touche pas directement. Je ne lui soufflai pas mot de ma conviction définitive, mais il me sembla qu'il l'avait deviné en m'entendant. Il gardait le silence, il est extrêmement taciturne. « Les extrêmes se touchent, » lui dis-je avant de me retirer. Pour être compris de Rogojin, je traduisis ce proverbe en russe. Aussi, malgré toute la différence qui existe entre nous, et quoique nous soyons aux antipodes l'un de l'autre, vous êtes peut-être beaucoup moins éloignés de ma conviction dernière qu'il ne le semble. » Une grimace aigre et maussade fut sa réponse. Feignant de croire que je voulais m'en aller, il se leva, me chercha lui-même ma casquette, et, sous couleur de me reconduire par politesse, me mit tout bonnement à la porte de sa sombre demeure. Cette maison m'avait frappé. Elle ressemble à un tombeau, mais il paraît qu'elle lui plaît. Cela, du reste, se conçoit. Il y a en lui trop de vie pour qu'il ait besoin d'en trouver autour de lui. Cette visite à Rogojin me fatigua beaucoup. D'ailleurs, depuis le matin, je ne me sentais pas bien.
Vers le soir, me trouvant très faible, je me mis au lit. De temps à autre, j'avais le corps en feu, et même par moments, je délirais. Kolia resta auprès de moi jusqu'à 11 heures. Je me rappelle pourtant tout ce dont nous parlâmes ensemble. Mais quand il m'arrivait de fermer les yeux, je rêvais toujours qu'Ivan Fomitch était devenu millionnaire. Il ne savait que faire de sa fortune, se creusait la tête pour résoudre cette question, tremblait d'être volé, et finalement se décidait à enfouir ses millions. Je lui faisais observer qu'il aurait tort d'enterrer inutilement tant de richesses. « Vous devriez plutôt, lui disais-je, fondre tout cet or. Vous en feriez un petit cercueil pour votre enfant qui a été gelé et dont vous exhumeriez le corps. » Sourikov recevait avec des larmes de reconnaissance ce conseil ironique et s'empressait de le suivre. Je lançais un jet de salive et m'éloignais. Lorsque j'eus complètement repris mes sens, Kolia m'assura que je n'avais pas dormi une minute et que pendant tout ce temps, je lui avais parlé de Sourikov. Par instant, mon agitation était extraordinaire, en sorte que Kolia se retira inquiet. Après son départ, je me levai pour aller fermer la porte au crochet, et tout d'un coup, je me rappelais un tableau que j'avais vu le matin chez Rogojine, dans une des salles les plus sombres de sa maison, au-dessus d'une porte. Il me l'avait lui-même montré en passant. Je m'étais, je crois, arrêté 5 minutes devant cette toile. Bien qu'elle n'eût rien de remarquable au point de vue artistique, elle n'avait pas laissé de me troubler étrangement. Ce tableau représente le Christ au moment où il vient d'être détaché de la croix. À ce qu'il me semble, les peintres qui font des crucifiements et des descentes de croix ont coutume de donner au Christ un visage extraordinairement beau. Ils cherchent à lui conserver cette beauté au milieu même des plus cruels supplices. Dans le tableau de Rogojine, rien de pareil. Ici, on a réellement sous les yeux le cadavre d'un homme qui a infiniment souffert avant même d'être crucifié, qui a été battu par les gardes, battu par le peuple, quand il portait sa croix et succombait sous ce fardeau. Enfin, qui a enduré pendant 6 heures, tel est du moins mon calcul, l'affreux supplice du crucifiement. À la vérité, le visage est celui d'un homme qui vient d'être descendu de la croix. C'est-à-dire que, loin d'être roidi, il garde beaucoup de vie et de chaleur. L'expression est douloureuse, comme si le défunt sentait encore la souffrance. Cela a été très bien saisi par l'artiste. En revanche, le visage est peint avec un réalisme impitoyable. Il n'y a ici que la nature. Et c'est bien ainsi que doit être le cadavre d'un homme quelconque après de tels tourments. Je sais que, suivant la croyance adoptée par l'Église dès les premiers siècles du christianisme, le Christ a souffert, non pas figurément, mais en réalité, et que par conséquent, son corps sur la croix a été pleinement soumis à la loi de la nature. Le visage représenté sur le tableau est enflé et couvert de plaies saignantes. Les yeux dilatés brillent d'un éclat vitreux. Mais, chose étrange, quand on considère ce cadavre de supplicié, une question singulière s'offre à l'esprit. Si tous les disciples du Christ, ceux qui furent plus tard ses principaux apôtres, les femmes qui lui donnaient des soins et se tenaient debout près de la croix, si, en un mot, tous ses fidèles et tous ses adorateurs ont vu son corps en cet état, et c'est certainement ainsi qu'il devait être, comment ont-ils pu croire, à la vue de tels restes, que ce martyr ressusciterait? Si la mort est si terrible, se dit-on malgré soi, et si les lois de la nature sont si puissantes, comment donc en triompher? Comment les vaincre, quand nous voyons maintenant, vaincu par elles, celui-là même qui, de son vivant, forçait la nature à lui obéir, celui qui s'écriait « Talitha kumi » et ressuscitait une jeune fille? Celui à la voix de qui Lazare sortait du tombeau. Lorsqu'on regarde ce tableau, la nature apparaît sous la forme d'une bête énorme, impitoyable et muette, ou plutôt,
quelque bizarre que soit la comparaison, comme une immense machine d'invention moderne, qui, sourde et insensible, a stupidement saisi, mis en pièces et absorbé dans ses entrailles un être, valant à lui seul autant que toute la nature avec toutes ses lois, autant que toute la terre, laquelle n'a peut-être été créée que pour donner naissance à cet être. Le tableau dont je parle éveille précisément cette impression d'une force aveugle, effrontée, éternellement stupide, à qui tout est soumis et qui s'impose fatalement à vous. Pas un des gens qui formaient l'entourage du défunt n'est représenté sur cette toile. Ils ont dû éprouver une angoisse et une consternation indicibles dans cette soirée qui anéantissait d'un seul coup toutes leurs espérances. Toutes leurs croyances même, pourrait-on dire. Sans doute, ils se sont dispersés en proie à une épouvante extraordinaire, quoique chacun d'eux emportât une grande idée qui désormais ne pouvait plus lui être arrachée. Et si leur maître même avait pu voir son image la veille du supplice, aurait-il ainsi monté sur la croix, et serait-il mort comme il est mort? Voilà encore une question qu'on se pose involontairement quand on regarde ce tableau. Après le départ de Kolia, je songeais à tout cela pendant 1 heure et demie. Peut-être avais-je le délire. Parfois, ces idées revêtaient même pour moi une forme plastique. Peut-on imaginer ce qui n'a point de corps? Quoi qu'il en soit, par moments, je croyais voir, sous une forme étrange et impossible, cette force infinie, cet être sourd, aveugle et muet. Je rêvais que quelqu'un me prenait par le bras et me conduisait quelque part où il me montrait, à la clarté d'une bougie, une énorme et repoussante tarentule. Cet être aveugle, sourd et tout-puissant, le voilà, m'assurait-il. Et il riait de mon indignation. Dans ma chambre, devant l'icône, une petite lampe est toujours allumée pendant la nuit. Quoique faible, cette lumière permet pourtant de distinguer tous les objets. Sous la lampe, on peut même lire. Je crois qu'il était déjà minuit. Je ne dormais pas du tout, et j'étais couché les yeux ouverts. Tout à coup, la porte de ma chambre s'ouvrit, et Rogojine entra. Lorsqu'il eut franchi le seuil, il ferma la porte, me regarda silencieusement, et se dirigea sans bruit vers la chaise, placée dans le coin, presque au-dessous de la lampe. Je fus fort surpris, et je le regardai, attendant ce qu'il allait faire. Rogojine s'accouda contre la petite table et se mit à me considérer sans rien dire. Ainsi se passèrent 2 ou 3 minutes, et je me souviens que le silence du visiteur me mécontenta vivement. Pourquoi donc ne voulait-il pas parler? Certes, je trouvais étrange qu'il fût venu si tard, mais, à vrai dire, je n'en étais pas extraordinairement étonnée. Loin de là. Le matin, je ne lui avais pas révélé clairement mon idée, mais je savais qu'il l'avait comprise à demi-mot. Or, cette idée était d'une nature telle que le désir d'en recoser avec moi pouvait fort bien me procurer la visite de Rogojine, même à une heure aussi indue. Je pensais qu'il était venu pour cela. Le matin, nous nous étions quittés en assez mauvais termes. 2 fois même, il m'avait regardé d'un air très moqueur. Voilà qu'à présent, je retrouvais dans son regard la même expression moqueuse. J'en étais blessée. Quant à ce fait que j'avais devant moi Rogojine en personne, et non une vision enfantée par le délire, sur le moment, je n'en doutais pas du tout. Cependant, il ne bougeait pas de sa place et me regardait toujours avec son sourire caustique. De colère, je me tournai violemment sur mon lit et m'accoudai sur l'oreiller, décidé à me taire aussi, dût cette situation se prolonger indéfiniment. Je voulais absolument qu'il parlât le premier. Je crois que 20 minutes s'écoulèrent de la sorte. Tout à coup, une idée me vint. Si ce n'était pas Rogojine, mais seulement une apparition. Je n'en avais jamais vu, ni depuis que j'étais malade, ni auparavant. Mais dans mon enfance, et même jusqu'à ces derniers temps, il m'avait toujours semblé que, malgré mon scepticisme absolu à l'égard des apparitions, Si j'en voyais une, je mourrais à l'instant même. Pourtant, je n'éprouvais aucune frayeur à la pensée que mon visiteur pouvait être un fantôme et non Rogojin. Je dirai plus. Cette conjecture n'eut pour effet que de m'irriter. Autre particularité étrange. La question de savoir si j'avais devant moi un spectre ou un visiteur en chair et en os me laissait beaucoup plus indifférent qu'elle ne l'aurait dû, ce semble. Je crois que je pensais alors à autre chose. Par exemple, j'étais bien plus curieux de savoir pourquoi Rogojin, que j'avais vu tantôt en robe de chambre et en pantoufles, portait maintenant un frac, un gilet blanc et une cravate blanche. Je me posais aussi cette question. Si c'est une apparition et si tu n'en as pas peur, pourquoi donc ne te lèves-tu pas et ne t'approches-tu pas d'elle pour t'assurer personnellement du fait? Après tout, c'était peut-être la crainte qui m'en empêchait. Mais, dès que cette idée me fut venue, je sentis soudain mes genoux vaciller et un frisson glacial parcourir mon dos. Dans ce même instant, Rogojin, qui paraissait avoir deviné ma frayeur, écarta la main sur laquelle il appuyait sa tête, se redressa et, me regardant fixement, ouvrit la bouche comme s'il allait se mettre à rire. La rage s'empara de moi et je voulus me jeter sur lui. Mais, m'étant juré de ne pas prendre le premier la parole, je restai sur mon lit. D'ailleurs, j'en étais encore à me demander si c'était bien Rogojin lui-même que j'avais sous les yeux. Je ne saurais dire au juste combien de temps cela dura. Je ne me rappelle pas bien non plus si je n'eus point parfois quelques moments de sommeil. À la fin, Rogojin se leva. Il m'examina encore longuement, et d'un œil attentif, comme il l'avait fait lorsqu'il était entré, mais cette fois sans sourire. Puis il se dirigea tout doucement vers la porte, l'ouvrit et se retira en la refermant sur lui. Je ne quittai pas mon lit. Combien de temps restai-je encore couché, les yeux ouverts, pensant Dieu sait à quoi? Je ne me le rappelle pas. Je ne sais pas non plus comment je m'endormis. Le lendemain, à 9 heures passées, des coups frappés à ma porte me réveillèrent. Il est de règle à la maison que si, avant 9 heures, je n'ai pas crié quand ma porte montait, Matrena doit elle-même venir cogner chez moi. Au moment où je lui ouvris, je me fis soudain la réflexion suivante. Comment donc a-t-il pu entrer, puisque la porte était fermée? Je questionnai et j'acquis la conviction qu'il était impossible que Rogojin eût pénétré dans ma chambre, attendu que la nuit toutes nos portes sont fermées à clé. C'est le cas particulier raconté ci-dessus avec tant de détails qui a été la cause déterminante de ma résolution. Je n'y ai donc pas été amené par la logique, par le raisonnement, mais par le dégoût. Je ne puis rester en vie quand la vie prend pour me blesser des formes si étranges. Cette apparition m'a humilié. Je ne saurais me soumettre à la force aveugle qui revêt l'aspect d'une tarentule. Je n'éprouvais d'apaisement qu'à la chute du jour, en sentant que mon parti était pris, une fois pour toutes. J'avais un petit pistolet de poche que je m'étais procuré dans mon enfance, à l'âge ridicule où l'on se met tout d'un coup à aimer les histoires de duels et de brigands. Je l'ai visité il y a un mois. Dans la boîte où il était se trouvaient 2 balles et un petit cornet à poudre contenant la valeur de 3 charges. Ce pistolet ne vaut rien, il écarte et ne porte qu'à 15 pas. Mais, appliqué contre la tempe, il peut sans doute écarter le crâne. J'ai résolu de mourir à Pavlovsk, au lever du soleil. Pour ne pas causer d'esclandre dans la villa, j'irai me tuer dans le parc. Mon explication fournira à la police tous les éclaircissements nécessaires. Les intéressés et les amateurs de psychologie pourront tirer de ce document toutes les conclusions qu'il leur plaira. Pourtant, je ne désire pas que mon manuscrit soit livré à la publicité. Je prie le prince d'en conserver une copie et d'en remettre une autre à Aglaé Ivanovna Epanchin. Telle est ma volonté. Je lègue mon squelette à l'Académie de médecine dans l'intérêt de la science.
je ne me reconnais justifiable d'aucune juridiction, et je sais qu'à présent, la vindicte publique ne pourrait m'atteindre. Il n'y a pas encore longtemps, j'ai fait une hypothèse qui m'a amusée. Si maintenant je m'avisais tout d'un coup de tuer quelqu'un, d'assassiner même 10 personnes, enfin de commettre le crime réputé le plus affreux en ce monde, quel serait, avec l'abolition de la torture, l'embarras du tribunal vis-à-vis d'un inculpé n'ayant plus que 2 ou 3 semaines à vivre? Je mourrais confortablement dans leur hôpital, ou bien chauffé, soigné par un médecin attentif, je serais peut-être beaucoup mieux que chez moi. Je ne comprends pas que cette idée ne se présente pas, au moins comme plaisanterie, à l'esprit des gens qui se trouvent dans ma position. Mais peut-être qu'ils y pensent aussi. Même parmi nous, il ne manque pas de gens gais. Mais si je sais qu'aucune cour de justice ne peut rien contre moi, je n'ignore pas non plus qu'on me jugera quand je serai devenu un accusé sourd et muet. Je ne veux pas m'en aller sans laisser un mot de réponse, un mot libre et non forcé. Non, pour me justifier. Oh non, je n'ai de pardon à demander à personne. Mais parce que moi-même je le désire. Voici d'abord une étrange idée. De quel droit, au nom de quel principe, m'interdirait-on d'abréger une existence limitée maintenant à 2 ou 3 semaines? À qui cela importe-t-il? Qui a besoin que, condamné, j'attende patiemment le jour de l'exécution? Se peut-il qu'en effet cela soit nécessaire à quelqu'un? Dira-t-on que la morale l'exige? Si j'étais robuste et bien portant, je comprendrais encore qu'on m'opposât la rengaine accoutumée. Vous n'avez pas le droit d'attenter à une vie qui peut être utile à votre prochain, etc. Mais maintenant que je suis déjà si près de l'échéance fatale, quelle morale a besoin de mon dernier hoquet? Et pourquoi faut-il que j'expire en écoutant jusqu'au bout les consolations du prince, qui sans doute ne manquera pas de me démontrer que la mort est même un bienfait pour moi? Les chrétiens comme lui en viennent toujours là, c'est leur idée favorite. Et qu'est-ce qu'ils veulent avec leur ridicule arbre de Pavlovsk? Adoucir les dernières heures de ma vie? Comment ne comprennent-ils pas que plus je m'oublierai, plus je m'attacherai à ce dernier fantôme de vie et d'amour par lequel ils veulent me masquer le mur de Meillet, et tout ce qui est si franchement écrit, plus ils me rendront malheureux? Que m'importe votre nature, votre parc de Pavlovsk, vos levées et vos couchers de soleil, votre ciel bleu et vos visages toujours contents, si je suis seul exclu de ce banquet sans fin? De quel intérêt est pour moi toute cette beauté, quand à chaque minute, à chaque seconde, je sais et je suis forcé de savoir que seul j'ai été traité en paria par la nature? Alors que la petite mouche qui bourdonne autour de moi dans un rayon de soleil a elle-même sa place au banquet, la connaît et est heureuse. Oh, je sais bien, le prince et les autres voudraient, pour le triomphe de la morale, me faire dire, au lieu de toutes ces paroles fielleuses et ulcérées, la célèbre strophe de Gilbert. Ah, puisse voir longtemps votre beauté sacrée, tant d'amis sourds à mes adieux, qu'ils meurent plein de jours, que leur mort soit pleurée, qu'un ami leur ferme les yeux. Mais croyez-le, braves gens, dans cette poésie résignée, dans cette bénédiction académique donnée au monde en vers français, se cache un fiel si intense, une haine si implacable, que le poète s'y est peut-être trompé lui-même, et qu'il a pris ses larmes de colère pour des larmes d'attendrissement. Sachez qu'il y a une limite à la honte que l'homme éprouve devant son néant, et que, cette limite dépassée, il trouve une jouissance extraordinaire dans le sentiment de sa faiblesse, de sa nullité. Allons, sans doute, ainsi comprise, l'humilité, je l'admets, est une force énorme. Mais ce n'est pas dans ce sens que la religion l'entend. La religion. J'admets la vie éternelle, et peut-être l'ai-je toujours admise. Que la conscience soit allumée par la volonté d'une force suprême, qu'elle jette un regard sur le monde et dise
j'existe. Puis que tout d'un coup, cette force suprême lui ordonne de s'éteindre parce qu'il le faut pour quelque intérêt supérieur, et même sans lui expliquer pourquoi. Soit, j'admets tout cela. Mais reste toujours la question. De quelle nécessité ma soumission est-elle ici? Ne peut-on pas me dévorer sans exiger que je bénisse qui me dévore? Se peut-il qu'en effet quelqu'un là-haut soit offensé parce que je ne veux pas attendre 15 jours? Je ne le crois pas. Et il est beaucoup plus naturel de supposer que l'on a besoin de ma chétive existence pour compléter quelque harmonie universelle. De même que chaque jour sont sacrifiés des millions d'êtres, sans la mort desquels le reste du monde ne pourrait subsister. Il faut noter toutefois qu'il y a là peu de magnanimité. Mais soit. Je reconnais qu'il était impossible d'organiser le monde autrement, c'est-à-dire sans que les uns mangeassent les autres. Je consens même à admettre que je ne comprends rien à cette organisation. Seulement voici ce que je sais. Du moment qu'on m'a une fois donné la conscience de mon être, que m'importe la vicieuse organisation du monde et l'impossibilité où il est d'exister autrement? Qui donc, après cela, me jugera, et à raison de quoi serais-je jugé? On aura beau dire, tout cela est impossible et injuste. Pourtant, quelque désir que j'en eusse, jamais je n'ai pu me figurer qu'il n'y a ni vie future ni providence. Le plus probable, c'est que tout cela existe, mais que nous ne comprenons rien à la vie future et à ses lois. Mais s'il est si difficile, et même tout à fait impossible de comprendre cela, se peut-il que je sois coupable parce que je n'ai pu concevoir une chose qui dépasse l'entendement? À la vérité, ils disent, et sans doute le prince comme les autres, qu'ici la soumission est nécessaire, qu'il faut obéir sans raisonner, et que ma docilité sera certainement récompensée dans l'autre monde. Nous rabaissons trop la Providence quand, par dépit de ne pouvoir la comprendre, nous lui prêtons nos idées. Mais, encore une fois, si l'homme ne peut la comprendre, il est inadmissible, je le répète, que cette inintelligence lui soit imputée à crime. Et s'il en est ainsi, comment donc serais-je jugé pour n'avoir pas compris la véritable volonté et les lois de la Providence? Non, mieux vaut ne plus parler de la religion. D'ailleurs, en voilà assez. Quand j'arriverai à ces lignes, à coup sûr le soleil se lèvera et commencera à résonner dans le ciel. Une force immense, incalculable, se répandra sur toute la terre. Soit. Je mourrai les yeux fermés sur la source de la force et de la vie, et je ne voudrais pas de cette vie. S'il avait dépendu de moi de ne pas naître, assurément je n'aurais pas accepté l'existence dans des conditions si dérisoires. Mais j'ai encore la faculté de mourir, quoique, mes jours étant comptés, mon pouvoir soit fort mince et par suite aussi ma révolte. Dernière explication. Si je meurs, ce n'est nullement parce que je n'ai pas la force de supporter ces 3 semaines. Oh, je serais assez fort pour cela. Et si je voulais, je trouverais une consolation suffisante rien que dans le sentiment de l'injure qui m'est faite. Mais je ne suis pas un poète français, et je ne veux pas me consoler de la sorte. Enfin, il y a là quelque chose de séduisant. En limitant ma vie à 3 semaines, la nature a tellement rétréci ma sphère d'action que le suicide est peut-être le seul acte auquel ma volonté puisse encore présider d'un bout à l'autre. Eh bien, peut-être veux-je profiter de la dernière possibilité d'agir qui me reste. Parfois, une protestation n'est pas une petite affaire.